Cet épisode 87 s'intitule « Un python dans la fournaise du Roussillon ». Bienvenue dans la Terre à Boire. On est toujours au studio Module et je suis en compagnie de Patrice Dauphé. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et de Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Tout va bien messieurs?
Plutôt pas mal.
Tout va très bien.
On va parler d'une région qui nous tient à cœur et qu'on avait pourtant un peu laissé de côté quand on avait fait, lors de nos deux premières saisons, un tour de France, un peu de toutes les régions viticoles. Il y en a une qu'on avait laissée, et croyez-moi, ça reste encore un débat très vif entre nous. Quand est-ce qu'on fait le Roussillon, cette région magnifique, un terroir tellement multiple en termes de
géologie de sol.
Géologique de sol. Il y a aussi des cépages, il y a des vins secs, il y a des vins doux, il y a des tonnes de choses à dire sur le Roussillon. Donc on est bien content d'en parler aujourd'hui. Et évidemment, pour en parler, comme à notre habitude, on a un invité. Bonjour Olivier Piton.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par faire un petit tour, décrire un petit peu cette région dans laquelle tu évolues. Le Roussillon, entre Corbières et Pyrénées, le vignoble le plus au sud de la France, Corse mise à part. On va parler un petit peu de toi et ensuite on va discuter un peu, notamment en buvant un de tes vins, un Laïs blanc, dont tu vas tout nous dire dans quelques minutes. Patrice, c'est vers toi que je me tourne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Roussillon ?
Le Roussillon, comme on l'a dit, c'est le vignoble le plus au sud de la France métropolitaine. Il y a trois trinités en fait dans le Roussillon, si on veut le caricaturer. D'abord, c'est entouré par trois chaînes de montagnes, au nord les Corbières, à l'ouest les Pyrénées avec le mont Canigou et puis au sud les Alberts. La deuxième trinité, c'est traversé par trois fleuves en parallèle qui rentrent dans le vignoble. Donc c'est l'Agly, la fameuse vallée de l'Agly, la tête, et le Tech. Et la troisième trinité, c'est la chaleur, la tramontane et puis quand même l'influence maritime. Il fait chaud, on est dans un vrai climat méditerranéen. Heureusement, on n'est pas trop loin de la mer et on bénéficie aussi des influences maritimes. Et puis on a un vent frais du nord qui s'appelle la tramontane qui permet de donner un état sanitaire de bonne qualité aux vignes et qui permet aussi du coup de pouvoir avoir des approches biologiques voire biodynamiques plus facilement que dans d'autres zones plus pluvieuses de la France.
La Tramontane, elle a un peu l'effet du Mistral en Vallée du Rhône.
Exactement.
Elle assèche.
Alors j'ai lu deux statistiques, soit un jour sur deux, soit un jour sur trois. Olivier nous en dira plus sur ce sujet, mais bon, en tout cas c'est un bienfait pour la région. L'autre caractéristique du Roussillon, c'est très tourmenté. C'est au tertiaire, au quaternaire, c'était tourmenté par la sortie des Pyrénées. Donc on a une grande mosaïque de sol, que ce soit des gneisses, des schistes, enfin les schistes notamment, des argiles, des calcaires. Donc on a plein de micro-terroirs et donc on a cette diversité de sols. On a aussi des très vieilles vignes. C'est la région de France qui a le plus de vieilles vignes en son sein. Et l'autre grande caractéristique du Roussillon, c'est que 80% en tout cas du volume des vins doux naturels qui sont faits en France sont faits dans le Roussillon. On connaît Rivesaltes, Maury, Banyuls, entre autres. C'est une région très intéressante de par cet amphithéâtre en fait qui regarde la Méditerranée entouré par des montagnes, par cette diversité de terroirs et par encore une fois cette diversité de sol.
Et Laurent, maintenant qu'on a parlé du Roussillon, si on doit présenter rapidement notre invité, Olivier Piton, c'est pas un inconnu.
Olivier Piton, effectivement, moi c'est un truc qui fait bizarre, mais c'est pas du Roussillon en fait, le nom Piton, puisque ton histoire remonte quand même à tes origines en Anjou plutôt, non?
Oui, c'est ça. C'est un grand frère qui était vigneron. On a 19 ans d'écart, donc il est parti à la retraite l'année dernière, il y a 2 ans. Mmh. Et on avait un grand-père maternel qui était vigneron aussi, et voilà, il y a toujours eu des vignes dans la famille. voilà, ça va sauter une génération avec avec notre mère, mais on a repris le flambeau, on a fait le coup double derrière. Donc ouais, donc mon frère était vigneron en Anjou et
c'est Jo Piton.
C'est Jo Piton, ouais.
Voilà.
Et donc moi j'ai grandi là-bas puis je suis parti après finir mes études et travailler du côté de Bordeaux. Et quand j'ai cherché un endroit où vivre et où m'installer, voilà, le Roussillon s'est présenté à moi et ça a été assez évident.
C'est quand même un itinéraire un peu surprenant, non ? Pourquoi le Roussillon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors j'ai plusieurs bagues là-dessus parce que je dis toujours que j'avais une mère un peu juive et j'avais besoin d'être à 800 km pour prendre un peu l'air.
on a une compréhension sur ça.
Il y a sûrement un peu de ça. Mais non, j'avais envie de nouveau, j'avais envie d'autre chose. À Bordeaux, je m'épanouissais pas totalement dans les années 2000 quand on voulait faire de la bio ou de la biodynamie, c'était quand même assez compliqué. Et puis, pas forcément l'envie de remonter en Anjou, de remonter en Loire, envie de voir autre chose. Et puis, j'étais jamais passé au-delà de Toulouse. Et je suis venu voir Gobi, donc, qui est dans le même village que nous. Et je suis venu le voir et je suis jamais reparti. Voilà, ça a été vraiment un coup de cœur sur les vins, sur les paysages, sur les terroirs, sur les cépages. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est assez impressionnant ici quand même, et d'une part la facilité avec laquelle on peut faire des très bons vins, et voilà, cet ensemble, une mosaïque de terroirs incroyable, une diversité de cépages et une facilité à sortir. Moi je suis arrivé il y a 20 ans maintenant, 22 ans, et une facilité à sortir du lot, ma foi, qui était très propice à se faire un nom, ici, quoi. Dans les années 2000, on est encore sur la fin de toute l'ère des coopératives. Et voilà, on n'était que quelques-uns à miser sur la qualité dans le Roussillon. C'est vrai que Gobi, entre autres, avait quand même montré la voie. Et derrière, c'était, ma foi, assez simple de faire quelque chose de bien et de montrer que le Roussillon avait plein de choses à dire.
C'était facile de trouver des vignes à cette époque-là, en Roussillon ?
Alors, ouais, c'était facile, c'était très facile. Pour rien vous cacher, j'ai trouvé 7 hectares en 2 jours. Donc c'était assez simple. Voilà, beaucoup de vieilles vignes, comme vous avez dit tout à l'heure. C'était pas forcément le meilleur choix, le choix le plus judicieux, parce que vieilles vignes, ça rime pas toujours avec vin de qualité. Voilà, c'est des vignes, des vieilles vignes. Il faut s'imaginer quand elle a 60 ans ou 70 ans, elle a pas connu que la chimie, mais pas loin. Et des fois, il vaut mieux une vigne de 30 ou 40 ans qui est en pleine forme qu'une vigne de 70 qui est à l'agonie, quoi. Donc voilà. Mais j'ai commencé quasiment qu'avec des vieilles vignes au début. Alors ça peut, c'est un peu plus facile pour faire des vins encore meilleurs. Mais c'est vrai que depuis j'ai pas mal renouvelé le vignoble parce que voilà, encore une fois, vieille vigne, ça veut pas toujours dire vin de qualité, et aujourd'hui on le voit avec des vignes qu'on a plantées il y a 5 ans, il y a 10 ans, on fait des très grands vins sur des jeunes vignes. À 10 ans on appelle ça encore des jeunes vignes, c'est des très grands vins. Il suffit d'avoir un bon terroir dont on laisse s'exprimer toutes ces qualités, et c'est très intéressant, quoi.
Alors, le terroir, en l'occurrence, pour toi, c'est la vallée de l'Agly, parmi les trois fleuves dont parlait Patrice.
Ouais, on est un peu au milieu de nulle part, parce qu'on est au-dessus du terroir au-dessus de la vallée de l'Agly. La vallée de l'Agly va de Rivesaltes jusqu'à Caudiès, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, et ça va suivre la rivière, l'Agly. Et nous, on est au-dessus, donc c'est un climat un petit peu particulier, une géologie aussi un petit peu particulière. Voilà, on domine la mer, on est en pleine tramontane, on est un peu sur une grande colline, et on va avoir beaucoup d'influences maritimes quand même qui vont venir jusque chez nous, et beaucoup d'influences du vent du nord, de la tramontane, et une géologie particulière, puisqu'on a à la fois des schistes, on a des marnes, on a des argilo-calcaires. On a demain, on fait une plantation sur un plateau argilo-calcaire avec un sous-sol de marne. Enfin, voilà, c'est un gros patchwork de différents terroirs, et c'est ce qui fait toute la singularité et la qualité des terroirs de Cap.
Dans le parcours initiatique, il y a eu quand même, j'irais, deux voire trois rencontres. C'est aussi à Bordeaux, Stéphane d'Hernoncourt.
Ouais. La première rencontre, ça a quand même été le milieu familial. Nous, le vin, on va dire que c'était au quotidien, et même si mes parents n'étaient pas dans le milieu du vin, mon frère l'était, notre grand-père l'était, et voilà, les vignes, le vin, tout ça, ça a fait partie de mon environnement de base, et un environnement dans la nature, et avec un vrai lien avec la nature, quoi. Nos parents faisaient un immense jardin, on mangeait les légumes du jardin, on mangeait les lapins de la cour, les poulets, enfin voilà, c'était, il y avait une vie avec tout ça, et si bien que le pas pour moi, il n'a pas été énorme à faire de vivre dans la nature comme ça. Et après, mon frère étant beaucoup plus âgé que moi, j'ai énormément appris avec lui, et je suis resté en Anjou pendant 4 ans, puisque j'étais pas très bon à l'école, et donc j'ai commencé assez tôt à travailler. Donc, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de diplômes, mais j'avais pas mal d'expérience quand j'ai commencé. Et quand je suis parti à Bordeaux, j'ai fini le peu d'études que j'ai fait, et puis après j'ai travaillé à droite à gauche, déjà très branché dans la bio, et j'ai rencontré, grâce à mon frère, Stéphane de Renoncourt. Et comme je dis souvent, il m'a appris ce qu'on nous apprend pas à l'école, la sensibilité, et savoir goûter, savoir la perception des choses, que ça soit à la vigne ou que ça soit dans le vin. Et c'est toujours un fil de conduite pour moi aujourd'hui. Et ça a été, c'était un grand apprentissage. On a travaillé 2 ou 3 ans ensemble, et c'était vraiment très formateur, et c'est une belle personne. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, Gérard Gobie, indirectement, quand je suis arrivé dans le Roussillon, même si j'ai pas travaillé chez lui comme beaucoup dans la région, j'ai pas travaillé pour lui, mais voilà, c'était quand même un exemple dans le Roussillon. C'est quand même lui qui a fait sortir le Roussillon du lot, qui les a mis sur les grandes tables au début.
Le domaine Gobie étant aussi à Cals, comme toi.
Ouais. Et il a montré la voie pour beaucoup dans le Roussillon, quoi. Ça c'est indéniable, par la qualité de ses vins, par la qualité de son travail à la vigne. C'était une référence,
un des précurseurs qui ont ouvert la voie. Donc ce village de Cals, on va en parler. Parlons d'abord de ce vin. J'ai une superbe étiquette devant moi. La cuvée s'appelle Laïs, et si j'ai bien compris, Laïs, c'est le nom d'une vache.
C'est le nom d'une vache, ouais.
Derrière, on a une vache sur l'étiquette, évidemment.
Oui, une tête de vache. Ouais. Laïs, c'est une grande histoire d'amour. C'est une vache avec qui j'ai vécu 25 ans. Parce que quand j'habitais à Bordeaux, j'avais déjà cette notion de d'ensemble agricole. Moi, je suis vigneron, mais je me sens d'abord agriculteur. Et je me sens d'abord paysan de vivre dans un territoire avec l'ensemble de son environnement. Et les animaux font partie de mon environnement. Et quand j'étais à Bordeaux et que je travaillais, j'avais une vache, j'avais un cheval. Il y en a qui ont rêvé d'avoir un chien. Et moi, je rêvais d'avoir une vache. Voilà, c'est comme ça. Et quand j'ai eu 3 sous, je me suis acheté une vache. J'habitais dans une petite fermette, et je la traillais le matin. Elle a eu des veaux. Je faisais le beurre, des choses comme ça. En plus de mon jardin, des poules, des canards, et tout ça. Et quand je suis venu dans le Roussillon, je dis toujours en rigolant, tout ce qui est rentré dans le congélateur, j'ai réussi à le mettre. Mais la vache et le cheval sont venus avec moi à Cals. Et Laïs est morte il y a un peu plus d'un an, à 25 ans. Et ce qui est très très vieux pour une vache. Et ça a été, c'était vraiment, je crois beaucoup aussi dans les relations entre l'être humain et les animaux. Et cette relation avec Laïs, qui était une petite vache, une jerseyaise, il y avait une, un vrai échange et on a vécu vraiment 25 ans ensemble. Quoi.
C'est aussi une cuvée hommage quelque part.
C'est une cuvée hommage, ouais, même si l'hommage était fait de son vivant, puisque c'est une cuvée que j'avais dès le début, dès le premier millésime. Donc voilà, pour le nom.
Et donc tu as récupéré tes vignes, là, elles étaient dans des états divers et variés, j'imagine.
Ouais, non, c'était pas divers.
C'était assez uniforme sur du pas terrible, c'est ça ?
Désherbé, ouais, c'était.
Et donc tu as travaillé pour passer en bio ?
Ouais, pour moi c'était, enfin je me suis jamais posé la question comment je voulais travailler mes vignes, mais c'était minimum en bio et j'avais commencé à être sensibilisé à la biodynamie par Stéphane et Christine de Renoncourt. Et voilà, c'était une voie vers laquelle j'avais envie d'aller. Et assez rapidement, je m'y suis dirigé là-dedans. Mais au début, c'était la bio tout de suite. Voilà, dès le premier jour, quoi. Moi, c'était.
Mais justement, quand on a.
Autrement, et sans réfléchir, savoir si économiquement, vaut mieux attendre un peu. Ou... Voilà, moi, je sais pas être autrement, quoi.
Quand on a des vignes en état comme ça de sous-perfusion, on va dire chimique, tu as réussi assez rapidement à t'en sortir, justement, à aller sur le bio, puis la biodynamie.
Le bio, donc premier jour, puis après, voilà, les effets, ils sont pas immédiats. Après, la chimie, ça n'empêche pas de faire du vin. La chimie, pour moi, ça empêche de faire des grands vins. Mais on a regoûté mon premier millésime en cuvée Laïs il y a pas longtemps et c'était très très bon. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de profondeur, de complexité, de pureté dans les vins grâce à la vie des sols et à l'équilibre entre sol et la plante. Quoi.
Alors justement, donc, les gars me font des signes, là, ils sont hyper impatients de parler du vin.
Parlons de cette cuvée, ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel cépage, quel terroir.
C'est un assemblage de macabeu, grenache gris et grenache blanc. Une des singularités du village, donc c'est la diversité de ces terroirs. Et on a toute une grande partie qui est plutôt au sud du village, qui est sur des schistes. Et des schistes assez pauvres. Et voilà, qui donne des vins avec une grande finesse, une grande minéralité. Et par choix, parce que j'aime beaucoup les blancs sur schiste. Alors je suis d'Anjou, je suis de l'Anjou noir, donc nous chez nous c'est des schistes. Et c'est vrai que j'aime ce type de vin. Je prends toujours l'exemple d'une fléchette. Pour moi, c'est claque. Voilà, c'est claquant. Et j'aime un peu cet assemblage de. Ce côté minéral, ce côté tendu des schistes, mais on est quand même sur un vin du sud et on a quand même de la chair. Voilà, c'est toujours la recherche d'équilibre pour moi est ultra important.
Pourquoi
Macabeu, grenache gris, grenache blanc et à 80% sur les terroirs de schiste.
Ouais. Pourquoi il est en IGP ? Parce qu'il répond pas à l'AOC, il veut pas. Enfin, l'AOP, tu veux pas faire l'AOP ?
Parce qu'ils ont créé l'appellation, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années. Et quand ils ont créé l'appellation, ils voulaient nous imposer Roussanne, Marsanne, Vermentino. Voilà, moi, ça, Roussanne, Vermentino, je dis pas, mais Roussanne, Marsanne, pour moi, il n'y a aucun intérêt ici.
Entièrement d'accord. Ouais.
Et ce que j'ai goûté m'a plutôt conforté dans mon idée. Et donc, du coup, pas d'AOP. Et ils sont revenus un peu en arrière. Et donc aujourd'hui, ça pourrait avoir l'AOP. Et c'est un projet pour avoir une cohérence, puisque la cuvée Laïs en rouge est en AOP. Et puis, je suis un fervent défenseur des appellations. Je me refuse à être en vin de table, puisque c'est un peu une mode aussi pour avoir un peu plus de liberté. Puisque là, on va bientôt trembler, puisqu'on va passer nos vins aux agréments. Et tous les ans, quasiment, on se fait... refoulé en nous disant voilà, c'est pas assez bon pour être un vin de pays des côtes catalanes. Donc, c'est toujours un peu la guéguerre avec les institutions pour qu'on fasse passer nos vins, ce qui est assez incroyable. Mais c'est la réalité.
Basé sur quels critères?
Parce que en fait, ils veulent qu'on présente des vins très tôt dans la saison. Là, moi, ma cuvée Laïs, elle est encore en élevage. Elle n'est pas du tout présentable. Sauf qu'ils sont pas capables de goûter un vin qui est en élevage en disant, dans 3 mois, dans 6 mois, il n'y aura pas de souci sur un vin comme ça, quoi.
Donc, le Laïs, il est en IGP côte catalane. L'AOP dont vous parlez, ce serait l'AOP en Roussillon, c'est ça?
Côte du Roussillon.
Côte du Roussillon. Un mot quand même sur ce vin qu'on a dégusté. Effectivement, ça claque.
Ouais, ça claque. Et en plus, 2018, c'est un millésime assez frais, assez pluvieux chez nous. Et voilà, on n'a pas des gros volumes comme on peut avoir sur des millésimes un peu plus solaires comme 19 ou comme l'était 17 avant. Et voilà, c'est un millésime qui a mis un peu de temps à se détendre, mais aujourd'hui qui est bien en place. Et voilà, moi j'aime bien faire des vins qui mettent un petit peu de temps à se livrer. Voilà, je fais des élevages plutôt sur la réduction. On est sur des fûts de 500 litres ou sur du foudre. Et voilà, je ne cherche pas à avoir un plaisir immédiat une fois que le vin est en bouteille. Et c'est vrai que des fois, il faut 3, 4, 5, 6 mois pour que le vin soit plus en place. Mais voilà, là, ça a un an et demi de bouteille et c'est top. Quoi.
Comment on fait? Parce qu'en fait, il n'y a qu'à 12,5 degrés, ce qui peut paraître assez faible. Est-ce que c'est lié au millésime? Est-ce que c'est lié au cépage? Comment on fait pour ne pas taper dans les 13,5 au bout des 14?
Eh ben, alors on tape quand même dans les 13,5-14, mais que sur les grenaches.
D'accord.
Et le macabeu, alors une précision, pas oublier que je viens quand même de la Loire, et j'ai pas peur de ramasser des raisins. Enfin, voilà, et c'est ça aussi que m'a appris de Renoncourt, c'est que y a le degré, on s'en moque. Hein, et l'important, c'est d'aller dans les vignes, de goûter et de se dire, bah voilà, avec ça, je suis capable de faire du bon vin. Et on ramasse. Ça, c'est bon, on ramasse. Il y a des années, le macabeu, ça va faire 11,5, puis l'année d'après, ça va faire 12,5 ou 13. Mais l'important, c'est d'arriver à goûter. C'est ta qualité de dégustateur de baies, en fait. Je suis un gros mangeur de raisins. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est de ressentir les choses, et c'est de connaître ces raisins, de connaître ces parcelles, parce que je vais pas avoir le même ressenti sur un schiste exposé sud, ou sur un schiste exposé nord, ou sur un calcaire. Voilà, tout ça, c'est d'arriver à apprendre, c'est la sensibilité, en fait. Et ça prend pas, ça se vit. Et voilà. Et ça, c'est la cuvée Laïs, c'est un assemblage de 5 ou 6 parcelles. Et donc, il y en a, les grenaches et les grenaches gris, entre autres, on va pouvoir aller dans les 13,5, dans les 14, des fois, des millésimes 14,5, parce que ça a besoin, il y a de l'acidité derrière, donc on n'a pas peur d'aller chercher des maturités. Et c'est ce qui va apporter un peu plus de rondeur et de complexité dans le vin.
L'important, c'est les équilibres.
Voilà. Et les macabeux, voilà, faut pas que ça aille trop loin. Au-delà de 13, c'est vraiment, là, ça perd vite de l'acidité. On est beaucoup sur la rondeur et ça peut avoir des profils un poil oxydatifs quand on va un peu trop loin en maturité. Mais on a ramassé des fois sur des millésimes 2018, je me rappelle plus précisément, mais ça serait possible qu'on ait ramassé des fois à des 11,5, 12. Et les grenaches font 13, 13,5, 14. Et voilà, et l'assemblage de ça, on est souvent autour de 12,5, quoi.
Quelques mots pour décrire ce vin.
Eh bien, on est sur des, on n'est pas encore aux premières notes d'évolution, mais on sent que c'est un vin qui est posé.
Tu le bois en même temps que nous là, je crois, non?
Je bois en même temps, ouais. ça va peut-être faire du bruit, mais
non, c'est
et, bien. Et voilà, moi j'aime bien les blancs comme ça qui ont un an et demi de bouteille. C'est un vin qui est vraiment posé. On a une belle complexité au niveau du nez. On commence à avoir des premiers arômes de poire, un tout petit peu d'évolution. Et je trouve que ça apporte une belle complexité.
C'est sûr que l'aromatique, le nez, il est vraiment hyper flatteur.
Il est généreux.
On a vraiment quelque chose de très, très riche.
Ce qui est très intéressant, pardon, je te coupe, mais ça a toujours été, c'est un constat que, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'expliquera un jour le pourquoi du comment. Dans mes vins, j'ai toujours eu des nez beaucoup plus sudistes que la bouche. Quand on prend en nez, c'est un nez qui est assez généreux, qui est assez riche. Mmh. Et on pourrait s'imaginer avoir un vin avec plus de volume que ça et même peut-être de la lourdeur. Et quand on prend en bouche, c'est tout sur la tension, sur la finesse.
Absolument.
Et il y a une fin de bouche qui est vraiment hyper acide et salivante. Mmh. Et ça a toujours été un fil rouge dans mes vins blancs.
C'est effectivement un vin, voilà, ça claque en bouche, ça donne faim, ça donne soif, ça donne envie d'en boire d'autres et de manger quelque chose. Qu'est-ce qu'on mange idéalement? Qu'est-ce que tu manges avec le Laïs?
Bon, bah, ça peut aller, l'éventail est assez large, mais sur les 2018 comme ça, moi j'aime bien, on est encore sur la saison des coquilles Saint-Jacques. C'est un vin qui n'a pas une grosse matière, faut pas un poisson en sauce, faut pas un homard ou des choses qui sont fortes dessus, parce que ça, c'est un vin qui peut vite se faire dominer par le plat. Mais quelque chose de simple, la coquille Saint-Jacques, c'est, on est en pleine saison, c'est super, quoi, que ce soit snacké ou en carpaccio, voilà, des plats assez fins, quoi. Des fromages de chèvre, sur les millésimes jeunes comme ça. Après, dès qu'on va avancer sur des millésimes un peu plus intérieurs, on va pouvoir aller un peu plus dans la complexité, un peu plus dans les poissons et les poissons en sauce. Et c'est vraiment très intéressant.
Olivier, tu parlais de ton terroir. Tu disais tout à l'heure, on va planter demain un terroir de schiste avec de l'argilo calcaire en dessous. C'est une étude. Tu as fait une étude géologique précise pour savoir justement, une fois que tu as acheté ces 7 hectares de vignes en 2 jours, pour savoir de quelle matière tu disposais en termes de sol, parce que la mosaïque est hyper variée en fait dans la région, donc tu peux avoir
d'un bout de parcelle à l'autre. On peut ne pas, sous la cave on a un grenache noir, le haut est sur de marne, le bas est sur les argilo-calcaires.
Donc tu as fait une étude précise avec des géologues qui vont scruter un peu les sols et qui te font un diagnostic précis de tout ce que tu as, c'est ça?
Presque, ouais. Non, je touche, je sens, je vinifie, je goûte les vins, j'écoute les vieux. Là où on plante demain, la personne à qui on a acheté m'a dit « Ici, tu ne seras jamais embêté par la sécheresse, c'est des terrains qui ne souffrent jamais de la sécheresse. » Et ça, je n'ai pas besoin de faire venir un géologue. Si Henri m'a dit ça, je le crois sans parole.
Ça veut dire qu'il y a des marnes en dessous qui retiennent un peu l'eau.
Il y a des marnes en dessous, ouais. Il y a une vallée de marne qui est pas loin et qui doit finir par ici. Et quand on a décompacté le sol pour préparer la plantation, on a remonté des blocs de marne. Et voilà, c'est extraordinaire, quoi, de voir tout ça. Mais voilà, plutôt que de faire venir quelqu'un, voilà, observons, touchons, regardons. Voilà, allons goûter chez le voisin qui a des vignes là et qui va, voilà, on va essayer de comprendre comme ça, quoi. Je suis pas très sur le côté analyse,
l'expérimental,
sur le côté sensoriel,
ouais. Sachant qu'aujourd'hui donc 7-8 hectares au départ, je crois que tu es à 19-20, c'est ça aujourd'hui?
Ouais, on a une vingtaine d'hectares, ouais.
Et les rachats, donc ça a été Henri qui a dit faut que t'achètes ça, enfin, comment c'est aggloméré les 12 hectares supplémentaires?
Parce que j'ai jamais eu envie d'avoir un petit domaine. Alors, je suis pas forcément mégalo, mais voilà, j'avais envie d'avoir un peu plus. Et puis, je me suis installé que sur des terroirs de schiste au début. Et j'ai rapidement compris que l'intérêt de Calpe, c'était cette diversité de terroirs. Et je me suis dit, ça serait quand même bien que j'ai un petit peu de calcaire. Et puis alors, je suis venu chercher des calcaires. Et puis pendant 1 an, 2 ans, puis j'en ai racheté d'autres. Puis après, on m'a proposé le terroir de marne. J'ai vinifié ça. Puis je me suis dit, ah putain, c'est génial. Puis quand t'assembles des marnes et des calcaires, puis tu mets une pointe de schiste, c'est quand même pas mal. Et voilà. Et c'est 22 millésimes.
La terre à boire. La terre à boire.
Comme
terre à
ça. Les
Pokémon, attrapez-les tous.
Et j'ai composé mes cuvées comme ça au fur et à mesure des années. Voilà, et j'ai réussi à avoir à peu près les assemblages de terroirs et de cépages que je voulais à partir des millésimes 2016. Donc là, il faut 16 ans pour arriver à créer quelque chose comme ça qui me semble à ma logique à moi, en tout cas. Donc ça se fait par des opportunités, par des rencontres, puis voilà, puis des fois il y a des erreurs, il y a des parcelles que j'ai revendues, il y en a que j'ai arrachées, d'autres que j'ai replantées, c'était planté en rouge, j'ai replanté en blanc, enfin voilà. Après, ça se fait comme ça, quoi.
L'aspect, il y a de l'eau en profondeur, est quand même pas anodin, c'est un des défis aujourd'hui et dans la région où tu te trouves, la sécheresse. Il n'y a pas beaucoup de pluie qui tombe quand même en Roussillon.
Il n'y a pas beaucoup de pluie l'année dernière. Alors dans tout le reste de la France, je sais que vous avez beaucoup souffert de la pluie. Et nous, on a beaucoup souffert du manque de pluie. Vous avez tout pris et on n'avait plus rien. Je crois qu'il est tombé 200 et quelques millimètres sur les 12 mois de vendange à vendange. Donc c'était très très sec. Heureusement, ça n'a pas été très chaud. Donc il n'y a pas eu une grosse évaporation. Donc la vigne a quand même souffert, mais quand même les nôtres ont quand même un peu moins souffert que dans la plaine, par exemple, parce que on est un tout petit peu plus en altitude, on le voit tout au long de l'année, on a 2 degrés de moins que dans le village en dessous, et 2 degrés de moins, ça compte quand même.
Ah oui.
Et voilà, on est un petit peu plus ventilé, on prend quelques entrées maritimes, et puis voilà, c'est pour les premières vignes, c'est 21 ou 22 ans de bio, 15 de biodynamie. Enfin voilà, ça au bout du compte, ça fait quand même la différence. Et globalement, les vignes n'ont pas trop souffert. On a fait des rendements plus que corrects l'année dernière, malgré une année de sécheresse, quoi.
Alors, le domaine Piton, c'est aussi une activité de négoce avec d'autres vignerons. Ça donne des cuvées qui s'appellent Mon Petit Piton, c'est ça ?
C'est ça, avec d'autres viticulteurs. Ouais, j'avais toujours cette idée que, ça peut en faire rire certains, mais que le vin doit rester dans une certaine mesure accessible. Et alors, à 10 euros, je peux entendre que pour certaines personnes, c'est déjà plus accessible. Mais quand on veut faire des vins de qualité, ça reste un prix un peu minimum. Et donc, j'avais envie d'avoir une cuvée plus accessible, on va dire ça comme ça. Sauf que à Cals, par l'aridité des terroirs, du climat, essentiellement des vieilles vignes, on l'a dit, c'est compliqué de faire des entrées de gamme comme ça. Et ça aussi, c'est mon côté ligérien. Voilà, c'est vrai qu'on avait en Loire, on avait un peu de Gamay, on avait du Grolot, on avait des choses comme ça, des vins rouges accessibles sur le fruit, plus faciles. Et le vin, ça ne doit pas toujours être quelque chose où on va passer une heure à le décrire, à savoir avec quoi l'associer. Des fois, on a juste envie de boire un coup, quoi. Et j'avais envie d'avoir des cuvées comme ça. Et sauf que avec mes vignes, à Cals, c'était pas possible. Et donc, en 2010, j'ai trouvé des gens qui avaient du raisin en bio et qui n'avaient pas forcément les débouchés commerciaux ou qui avaient une vision du vin peut-être un petit peu décalée avec les tendances du moment. Et donc j'ai acheté des raisins comme ça. Alors j'ai commencé petit, puis aujourd'hui c'est un peu plus gros, et on a un partenariat aujourd'hui avec une demi-douzaine de viticulteurs maintenant, souvent des anciens coopérateurs qui ont fait le passage en bio et voilà, qui ont pas été entendus par la CAF coopérative. Ils sont sortis et puis voilà, nous aujourd'hui on achète une partie de leurs raisins, on les a aidés à trouver d'autres personnes comme moi qui cherchaient du raisin qui vinifiait et qui avait les réseaux commerciaux. Mmh. Et c'est chouette parce que c'est un vrai partenariat, c'est un vrai échange aussi avec eux. C'est des locaux, ce que je ne suis pas, et qui ont une vraie connaissance de leur terroir à eux, de leur vigne à eux. C'est des vrais passionnés et c'est des vrais producteurs de raisins. Ils sont incapables, ils n'ont pas envie de transformer, ils n'ont pas envie de... Quand ils me voient aller à droite à gauche, faire des salons, vinifier, passer du temps à la cave, ils disent voilà, ça c'est pas pour moi. Moi j'ai pas envie de ça. Moi par contre d'être 300 jours de l'année dans mes vignes, ça me va tout à fait, quoi. Donc voilà, ils nous apportent le raisin ici et tout est vinifié et élevé ici à la cave. Et puis je vous avoue qu'il y a quand même un côté économique parce que le fait de faire du négoce nous permet d'avancer beaucoup plus vite. On n'a pas la charge du foncier, on n'a pas la charge du matériel, du personnel, et on prend beaucoup moins de risques sur les aléas climatiques en faisant comme ça. Donc c'est vrai qu'on avance plus vite, et en 20 ans moi je suis parti vraiment de zéro, et aujourd'hui on fait quand même partie des domaines un peu référence du Roussillon, et c'est aussi grâce à l'activité de négoce. Et ça a toujours été une volonté d'être en bio, même sur le négoce, parce que de montrer aussi qu'on peut faire bon, bio et pas trop cher, c'était aussi un acte militant pour moi. Et voilà, je suis très fier d'avoir fait ça. Alors au début, on se faisait un peu décrier en disant « t'es plus vigneron, t'es négociant ». Parce qu'aujourd'hui, c'est un exemple qui a été développé par pas mal de vignerons. Et je trouve ça bien parce que tout le monde est content. Les viticulteurs, ils trouvent des débouchés à leurs raisins. Il n'y a pas que la CAF coopérative qui peut leur acheter. Et quand j'ai le viticulteur qui me dit « je suis super content de bosser avec toi parce que je gagne 2,5 fois plus qu'à la CAF coopérative et je suis payé 3 fois plus vite », et je lui dis « super, moi je suis super content de travailler avec toi parce que moi, ça me permet de développer mon entreprise et de proposer du vin aussi comme ça. » Enfin voilà, c'est une vraie relation entre tous, et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et on a rencontré des super personnes grâce à ça, quoi.
Et à ce propos, parce que tu le dis, tu es ligérien, tu viens de la Loire, ça s'est bien passé l'immersion dans le pays catalan là ? Les Catalans qui ont parfois un peu la tête dure ?
On peut passer à une autre question ou... Non, ben forcément, mais j'ai vécu à Bordeaux aussi, c'était pas beaucoup plus simple. Des têtes dures, je crois qu'il y en a un peu partout.
Ils sont attachés à leur pays, en tout cas. À leur terroir.
Ils sont attachés à leur pays, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, il y a toujours, on va toujours pouvoir citer des exemples de personnes qui n'ont pas compris ce qu'on venait faire ici, mais globalement, ça s'est très bien passé. Et puis, il y en a plein qui sont venus de l'extérieur. Donc aujourd'hui, des pures souches catalans, il n'y en a plus beaucoup. Donc, surtout dans le monde du vin, aujourd'hui, on est beaucoup à être venus d'ailleurs et à montrer qu'il y avait des choses à mettre en valeur ici, quoi. Donc, globalement, ça a été.
On a l'habitude de boire plusieurs vins dans cette émission. On a commencé avec le tien, le Laïs blanc 2018, en hommage à cette vache que maintenant on connaît un peu mieux. Donc voilà, on est content de l'avoir rencontré par ton intermédiaire. On a ouvert un deuxième vin qui est une cuvée qui s'appelle Petit Taureau.
Un petit clin d'œil.
La métaphore bovine. De la vache, passons au petit taureau. Et c'est un domaine, le domaine de Jean-Philippe Padier, que tu connais également très bien.
Oui, que je connais très bien, parce qu'on est dans le même village. Et parce qu'on s'est installé quasi en même temps. Moi, j'ai commencé en 2001 et Jean-Philippe a commencé en 2003. Et sur des structures un peu identiques. On a commencé sur des petites structures. Aujourd'hui, on doit être à peu près dans les mêmes tailles. Et lui aussi a monté une activité de négoce. Enfin, voilà, il y a un parcours un peu en parallèle. Et c'est chouette parce qu'on a toujours eu à cœur de défendre le territoire de Cals et nos vins et cette synergie qu'on a tous les vignerons de Cals. On avait monté une association en 2005, je crois, pour faire une manifestation qui s'appelait Les Caps se revivent, où on faisait la promotion des vins de Cals. Donc, toujours dans l'idée de travailler ensemble et que ensemble on était plus fort que tout seul dans son coin. Et ça vaut pour la promotion, pour parler de Cals, mais ça vaut aussi dans le matériel parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous faut beaucoup de matériel, que ce soit à la vigne ou à la cave. Et il y a plein de matériel qu'on peut avoir à deux, à trois. On a partagé un pressoir pendant peut-être 10 ans avec Jean-Philippe. Ça nous a permis aussi de grandir, le fait de travailler ensemble et de grandir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quasiment plus rien, plus de matériel en commun, mais il y a un attachement qui reste là, et même si moi je suis parti, comme il me dit, je suis parti dans les quartiers ouest de Cals, j'ai construit à l'extérieur. Voilà, maintenant, avant on était à 50 mètres l'un de l'autre, maintenant on est à 800 mètres, je me suis exilé dans les quartiers. Aujourd'hui, maintenant on est, je crois, on est 8 ou 9 vignerons sur Cals, et c'est chouette parce qu'il y a plein de structures, il y a plein de modèles qui sont possibles. On a des copines qui, en parallèle de leur travail, ont pris 2 hectares, 4 hectares de vignes et font ça par passion. Et pour l'instant, elles n'en vivent pas, mais elles sont passionnées. Et peut-être qu'un jour, elles en vivront ou peut-être qu'elles resteront plus réactives. Voilà, il y a plein de modèles économiques possibles dans la vigne. À chacun de trouver le sien, quoi.
Alors moi, cette cuvée, le Petit Taureau, là, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je rendais visite à un copain qui travaille à la cave Les Crus du Soleil,
oui.
Dans le 14e. Et,
à Paris.
À Paris, effectivement.
Et donc, dans le 14e, à Cals.
On parlait... On parlait du Roussillon, qui est un peu une de leurs, parce qu'en fait c'est une cave qui est spécialisée sur les vins du Languedoc et du Roussillon. Hein. Il faut savoir qu'ils ne vendent que les vins de cette région. C'était vraiment des précurseurs sur la découverte de ces régions qui ont quand même été pas mal méjugées pendant des années. Et donc, il m'a ouvert cette bouteille de Petit Taureau 2020, donc tout récent, tout frais. Et j'ai été très séduit parce que C'est un vin qui est très facile à boire, qui est très gourmand, qui est vraiment, qui a une jolie fraîcheur. On est sur quelque chose de qui effectivement vient du sud, mais qui est très très bu. Enfin, on a la tendance aujourd'hui à parler de la buvabilité. Ben, on est vraiment sur une buvabilité extrême, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous les garçons.
Ouais, c'est un peu comme quand on sert un Beaujolais jeune, où on dit ça c'est gourmand et c'est fruité et très buvable. D'ailleurs, les petits pitons, parce que il m'est arrivé d'en prendre effectivement de ces cuvées dont tu parlais, Olivier, qui sont plus sur le fruit, la simplicité, la facilité. On retrouve ça. Quels sont les cépages?
Donc là, on a la Syrah et du Carignan, et on est à moite-moite, je crois.
Ouais, on sent la tension de la Syrah, je trouve.
Et Jean-Philippe, justement, joue sur les deux types de terroirs, les marnes d'un côté. Les marnes calcaires et d'un côté pour le Carignan et les schistes pour la Syrah. Donc on a vraiment j'avais un peu peur que ce soit un peu réduit parce que c'est quand même des cépages qui effectivement peuvent être un peu sur la réduction et là c'est, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment tout de suite on l'a ouverte il y a pas longtemps et
c'est croquant.
Ouais, tout à fait.
La Syrah, c'est un cépage qui...
Jean-Philippe travaille beaucoup en Grappentia. Et il aime beaucoup ce profil de vin. Simple, c'est pas le mot, mais sur la fluidité, sur le
direct.
Côté très aérien, très direct et immédiat des rouges. Ouais.
Donc, en parallèle avec le Beaujolais, n'était pas complètement incongru. La Grappentia, c'est
non,
un
non,
truc
non.
de...
Ouais.
Bon, après, il a un parti pris un peu différent parce qu'il est en vin de France.
Oui, on a des avis divergents.
Un peu divergents sur la question, apparemment.
Ouais, ça,
d'où le déménagement récent.
C'est ça, voilà. parce que je serais plutôt à vouloir créer une appellation CALS, en disant, on a une vraie identité ici, mettons-la en avant, quoi. Mais bon, voilà. Quelquefois, je me sens seul, mais c'est pas grave.
C'est un dossier qui pourrait... avancer ça, une appellation CALS avec toi, avec Gobi, avec...
Je me sens seul.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'énergie aussi.
Les Gobi ont quitté l'appellation. Je crois qu'aujourd'hui, je suis le seul à faire des vins en appellation sur le territoire de CALS. Moi, j'aimerais ça, mais c'est vrai que c'est un gros dossier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si je suis tout seul à défendre c'est un peu perdu d'avance. Et j'avoue que j'ai d'autres
priorités.
J'ai aussi d'autres chats à fouetter.
Ça met en lumière effectivement une difficulté qu'on rencontre dans pas mal d'autres endroits. C'est-à-dire que c'est tellement d'énergie d'aller chercher un cru, une appellation. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. C'est un investissement sur quasiment 10 ans.
Ouais.
C'est pharaonique comme travail. Donc, quand les étoiles sont, les planètes sont alignées, on a un certain nombre de vignerons qui se regroupent et qui poussent et une appellation qui est dynamique. Mais il suffit qu'il y en ait moins ou que vous soyez trop occupé par ailleurs. Enfin, c'est ça.
On est tous des jeunes entreprises et c'est vrai qu'on a. On a plein d'autres choses à faire, quoi. Et c'est vrai que, très honnêtement, j'ai passé ma journée dehors à tailler, à préparer ma plantation. J'ai pas envie de me mettre dans un bureau à préparer un dossier. C'est pas dans les priorités du moment, puis il faut qu'on laisse des choses à faire aux prochaines générations.
Oui, c'est bien ça.
Ton domaine est biodivin. Pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté?
La biodynamie, j'ai été. Ça coule à flot à côté.
Laurent est en train de servir le troisième vin. Non, mais sur le label biodivin en particulier, comment ça s'est. C'était important pour toi d'avoir un label?
C'était pour moi, si on commence à parler de la bio ou de la biodynamie, pour moi, c'est labellisation obligatoire. Parce que c'est très à la mode. Alors c'est des bonnes modes, mais quand on écoute plein, on est en bio, on est presque en bio ou on est presque en biodynamie. Nous, il y a un cahier des charges qu'on est obligé de respecter, que ce soit en bio ou en biodynamie. Et alors, ça ne veut pas dire que le vin est bon, hein, mais ça veut dire que ce cahier des charges a été respecté.
Mmh. Voilà, c'est un certificat mauvais, d'authenticité, quoi, en tout cas. De sincérité et d'authenticité.
Et de sincérité par rapport aux pratiques. Donc voilà, c'est pas forcément grand-chose, mais ce minimum, au moins, on est sûr qu'il est respecté. Et après, au consommateur de faire son propre avis. Mais voilà, et pour moi, c'était important d'être certifié biodivin, d'avoir un certificat en biodynamie, quoi. Et biodivin, c'est un groupe de vignerons, et avec lequel j'ai énormément progressé depuis que je suis rentré dans le groupe en 2010 ou 11. Et c'est la rencontre d'autres vignerons passionnés par la même chose que nous et qui m'ont aussi aidé à progresser dans mes vins, dans ma biodynamie, dans ma bio, dans ma réflexion globale. Et je suis venu aussi essentiellement à la biodynamie par la dégustation, par le verre. Parce que quand vous goûtez un vin, deux vins, dix vins, et vous dites ça me plaît, quoi. Et puis comment il travaille, il est en biodynamie. Bon, alors donc on va chercher un peu plus loin, et puis on se dit on va y aller aussi parce que ça me plaît, quoi.
Et pour rappel, Biodivin a un comité de dégustation.
Oui, c'est.
Et Biodivin a un comité de dégustation.
J'allais préciser.
Contrairement à Déméter, et j'ai rien contre Déméter.
Quand tu disais.
Il y a une partie dégustative.
Quand tu disais c'est pas une garantie que c'est un bon vin, certes, mais Biodivin, à différence, comme tu dis, de Déméter, il y a cette dimension quand même qualité avec une dégustation et tout le monde n'est pas ému, etc.
C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'un bon vin on peut se mettre 10 autour de la table et avoir 10 avis différents. Donc, c'est un peu un garde-fou.
Un garde-fou.
Plus ça comme un garde-fou, Biodivin que vraiment. Dégustation sur la qualité des vins. Après, je vais pas y aller. Dans le cahier des charges, j'espère pas me tromper, mais je sais que par exemple, le 100% fût neuf ou le 200% fût neuf est interdit. Enfin, des petites choses comme ça qui vont faire que, on va pas avoir un vin hyper boisé, par exemple, dans le cahier des charges biodivin, quoi. Et pour moi, c'était important. De le certifier et c'est encore une fois un acte militant, quoi. C'est peut-être un tout petit acte, mais au moins on travaille comme ça, on le revendique, on assume et puis c'est chouette. Et puis on était en dégustation à Marseille, on a fait nos trajets il y a une quinzaine de jours c'est un vrai groupe. Alors maintenant je crois qu'on est 165
165
merci.
On a reçu
j'ai pas tout entendu à l'AG,
parce que Patrice a interviewé longuement Olivier Ombrecht il y a pas très longtemps, et effectivement sa démarche esthétique est assez
président éloquente. Non, c'est chouette, c'est un vrai groupe, il y a une vraie philosophie. Je veux pas parler de famille, mais c'est vraiment chouette. Hein. Moi, j'ai beaucoup progressé avec des divins.
Alors, Olivier, tu dis que tu as voulu multiplier un peu les terroirs et jouer avec toutes les gammes de sols dont tu pouvais disposer, de schiste, de marne, etc. Le Roussillon, c'est quand même la terre des vins doux naturels, à Rivesaltes, à Banyuls, à Maury. Tu ne fais pas encore de vins doux. Est-ce que ça te tente? Est-ce que c'est la prochaine aventure?
Ça pourrait. Je dis toujours que je suis plein de certitudes qui ne demandent qu'à changer. Mais non, j'en ai jamais fait. Et c'est vrai que je commence à appréhender un peu mieux que ça soit les vins doux, les vins oxydatifs dans la région. Et c'est des choses que on voulait essayer cette année. Et l'occasion s'est pas présentée, mais je pense que j'essaierai de faire un peu de vin doux.
Tu as des vignes qui te permettraient, tu identifies déjà les parcelles qui promettent, des vieilles vignes, des choses.
Non, honnêtement, j'en suis pas à ce point-là de la recherche. Je sais que c'est des choses, et j'aime bien les vieux vins doux. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à les faire maintenant pour que ce soit les enfants qui en profitent. Mais non, c'est quelque chose. Autant j'étais insensible les premières années, autant aujourd'hui je m'y intéresse. Après, peut-être que j'en ferai jamais, je sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Puis il y a un vrai côté historique dans la région, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est la tradition régionale. Ouais.
Ouais, tu goûtes un vieux Rivesaltes ou un vieux Banyuls, des choses qui ont 20, 30, 40 ans. Il y a quand même quelque chose, quoi.
Alors justement,
oui, justement. Merci pour la transition.
Merci pour la transition magnifique.
Je viens de servir un troisième vin là, qui est un Rivesaltes, pardon.
Hors d'âge.
Donc basé sur une Solera de 30 ans.
Donc ça veut dire concrètement
du domaine Vacquer.
Et Solera de 30 ans, ça veut dire concrètement?
Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu retires du vin, tu remets du vin jeune par-dessus, mais il y a systématiquement, enfin il y a en permanence une base de vins qui ont donc plus de 30 ans, quoi. Et ça donne une complexité au vin qui est juste incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup le faire découvrir.
Le cépage au départ, c'est un grenache?
Alors, le cépage au départ, c'est du macabeu.
Macabeu, d'accord.
Ouais. Et aujourd'hui, je crois que Frédéric rafraîchit avec grenache blanc, grenache gris, je crois.
Frédéric, du domaine Vacquer.
Du domaine Vacquer, oui, pardon. Voilà.
À Rivesaltes. Et Rivesaltes, c'est tout près de toi, hein, Olivier. Hein, on est.
Ouais. Alors l'appellation Rivesaltes. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si elle fait pas tout le département.
Ouais, quasiment. Oui.
Donc en fait, Rivesaltes, c'est effectivement à 15 km de chez nous, juste en dessous. Mais Frédéric Vacquer est dans les Aspres, donc c'est vraiment au pied des Pyrénées, des terroirs un peu plus frais que chez nous. Ils prennent un peu plus d'eau et c'est plutôt à 35-40 km de chez nous. Ouais. Vraiment au pied des Aspres, des Alpes, des
Aspres, voilà. Des Aspres, des Pyrénées.
Des Aspres et des Pyrénées, ouais.
Bon, c'est des vins magnifiques, disons-le, quoi.
Quand on parle de vins de méditation, je pense que ça se positionne ça. Là, c'est vraiment...
J'ai la première fois que j'entends cette expression de vin de méditation.
Ah oui ?
Ah oui, complètement. Ah,
pour moi, c'est vraiment le vin que tu prends...
Si tu commences à picoler dans ta méditation, c'est que...
Ah oui, c'est grave, docteur.
Non, je pense que c'est effectivement quand même des vins qui appellent... t'as envie de te taire, quoi. C'est tellement riche en arômes.
C'est... Tu passes ton temps à le... Enfin, moi, je passe plus de plaisir... Enfin, je prends plus de plaisir à le sentir, limite, qu'à le boire. Parce qu'en fait, le nez est juste incroyable. À chaque fois que tu le fais un peu tourner, là, ça dégage des fruits secs, des fruits confits.
Ouais, le Rivesaltes, donc, c'est un vin doux naturel.
Oui, alors...
Comme souvent sur Vendée, il y a quatre sortes. Il y a Grenat, Huilé, Ambré.
Là, on est sur un Ambré.
Rosé aussi. Et donc là, on est sur un Ambré hors d'âge. Et je pense qu'on a... Alors, je ne suis pas expert du rancio, mais c'est vrai qu'au nez, on a vraiment ce qu'on appelle cette notion de rancio, de fruits très secs, de noix. Et c'est vrai que... Et d'une intensité folle, en tout cas au nez... Et ça transperce, quoi.
Moi, je ne comprends pas comment ces vins peuvent être moins moins appréciés aujourd'hui qu'on les pour tout te dire, Olivier, nous on aime bien parler des vins doux et on passe notre temps à dire, mais en fait, ces vins et les vignerons, quand on en parle avec eux, ben oui, mais ça se vend plus beaucoup, donc il faut faire du sec parce que bon.
Ça se consomme plus en fait.
C'est la tradition, mais voilà, il y a moins de demandes.
Pendant un moment, ils faisaient, je vais pas dire qu'ils faisaient que ça ici, mais ils s'en faisaient énormément quand même. Ça, c'était la grosse région de vin doux avec entre les muscats, les morilles, les bagnous, tout ça.
Bien sûr.
Et voilà, la consommation, elle a énormément changé. Et on a envie de ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit sur les rouges ou sur les blancs, d'avoir des vins plus frais et voilà, et la consommation de ça, c'est un peu comme les liquoreux dans d'autres régions, c'est tout petit, mais c'est toujours intéressant de continuer à les faire parce que c'est l'histoire, parce que c'est bon
savoir-faire,
disons comme alors Dom Pérignon, même s'il y a des débats à inventer le champagne en Champagne, en fait le vin doux naturel, c'est Arnaud de Villeneuve qui en 1285 a trouvé le procédé. Il était à Perpignan, donc le principe même de la vinification des vins doux naturels, le mutage avec des alcools viniques 96, ça date d'abord, oui, ça a plus de 700 ans, 750 ans, et c'est né à Perpignan, en fait.
À une époque où on était dans le royaume des rois de Majorque.
Exactement.
Mais on n'était pas en France à cet endroit-là.
Exactement. Il était à la cour des rois de Majorque.
Toute l'histoire de ce pays catalan, voilà. chargé de soleil et riche en vin et dont tu participes à cette grande histoire, même si aujourd'hui le goût il est plus sur les vins secs, sur les vins que tu fais, où tu t'attaches justement au côté buvable.
L'histoire du Roussillon, change et évolue, quoi. Et c'est vrai que mais ça fait toujours partie de l'histoire et du présent, puisqu'il y en a encore qu'en fond, même si la consommation
bien sûr
a grandement baissé. Mais c'est ça, moi aussi, qui m'a plu dans le Roussillon, c'est que c'est un mélange d'histoire qui est très présente et de choses à inventer, à créer. Je dis tout le temps, le Roussillon, c'est le Far West. On fait ce qu'on veut, comme on veut. on s'en fout. On est en vin de table, on est en vin de pays, on est arrosé. Voilà, on a le droit à je sais pas combien de cépages. Enfin, c'est
24.
Il y a une liberté quasi totale, quoi. Et un consommateur qui est prêt à avoir, comme on n'a pas d'histoire qualitative sur des vins secs, le consommateur est très très ouvert d'esprit, quoi.
Tu as senti ça, la demande évoluer, la façon d'écouler les vins dans la distribution, chez les cavistes, dans les restaurations, beaucoup changé le regard.
Moi j'ai pas senti changer parce que je suis arrivé au début de ce changement. Donc ouais. Pour moi il y a pas eu de voilà. Mais je sais comment c'était avant et comment la génération d'avant a quand même trimé pour montrer que le Roussillon avait des choses à dire, quoi. Et honnêtement, moi je suis arrivé, je me suis mis dans le fil de Gobi et ça a été très facile, quoi. Enfin, je vais pas vous dire que j'ai trimé 100 euros pour vendre mes vins. J'ai jamais vraiment galéré, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir mon frère qui avait sa petite réputation et Gobi sur le village qui avait tracé le sillon, et voilà, il suffisait de se mettre derrière et ça a été facile, mais il a fait
dans l'aspiration en fait, comment formuler.
Oui, oui.
est-ce qu'il y a des envies ou pas du tout, parce que biodivin c'est bien, est-ce qu'il y a des envies d'encore aller plus loin sur cette démarche là ou pas du tout, enfin agroforesterie, alors c'est peut-être pas possible dans la région, je connais pas Cals par cœur, mais où c'est la biodynamie, c'est déjà
en soi. L'agroforesterie, je sais pas exactement ce qu'on met dedans, mais d'être encore plus à l'écoute de son milieu. Voilà, je disais tout à l'heure qu'on plante demain matin. C'est une parcelle qui fait 1,30 hectare, on plante 1 hectare parce que cette parcelle d'1,30 hectare, on la coupe en 3 pour faire 3 petites parcelles découpées par des haies, parce que on est en plein vent et que il y a aussi cette notion du beau. Qui est ultra importante chez nous ici, et c'est une des premières choses que j'explique à un nouvel arrivant dans l'équipe chez nous, c'est que j'ai envie de faire du beau, et là où on était à tailler aujourd'hui, on avait une bouffeuse qui était avec nous, et on avait une salariée, et elles ont taillé des arbres, elles ont rattaché des cyprès, elles ont taillé 2-3 cognassiers qu'on avait plantés, elles ont on avait mis des pêchers de vigne, enfin voilà, c'est créer un écosystème autour de tout ça. Voilà, on est en train de fabriquer une petite mare pour guider de l'eau en permanence tout l'été ici, pour que les oiseaux ils puissent venir. C'est des réflexions où aujourd'hui on peut on a le luxe quand même de pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre démarche agricole.
Cultiver sa vigne comme son jardin, quoi, quelque part. Oui.
C'est un grand jardin, mais un peu
non,
plus.
Mais dans la démarche.
L'esprit de Voltaire, tu veux dire.
C'est d'y porter encore plus d'attention, quoi, et de conscience, il faut venir, quoi.
Avec grand plaisir.
Non, faut venir, c'est vraiment, et je le dis d'autant plus facilement que je suis pas du coin. C'est vraiment un pays qui est assez magique, quoi. Au niveau des terroirs, on était se promener hier dans l'arrière-pays, c'est sauvage que ça en peut plus. C'est vraiment magique. On a Scanigou qu'on voit à peu près partout, qui est enneigé en ce moment. On a des levées de soleil sur la mer. Là, c'est superbe. La semaine dernière, on avait la lune qui se levait vers 19-20 heures, une ligne énorme rouge. Enfin, c'est magique. C'est très très beau.
Merci beaucoup, Olivier Piton. Effectivement, c'est un pays magnifique autour de Perpignan, de Rivesaltes, de Cals, qui est donc l'épicentre de ce renouveau du Roussillon. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Avec grand plaisir.
Bravo pour ces vins, ce Laïs blanc qu'on a bu. Et voilà, on a enchaîné avec un petit taureau de Jean-Philippe Padier. On te libère. Merci infiniment. Et puis, bah voilà, continue à faire des beaux vins. On te rendra visite, j'espère, un de ces jours.
On vous attend.
Écoute, avec un très, très grand plaisir. À bientôt, Olivier Piton. Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Bon, c'était magnifique, hein. C'est vin. Moi, j'ai envie juste de finir sur le Rivesaltes là, qui me scotche. Je trouve un goût de chocolat. Il y a un truc.
Il y a des à peu près tous les goûts que t'as dans la nature, ils sont dedans.
La torréfaction, oui, du chocolat, oui, des oranges confites.
Chocolat à l'orange, exactement.
Je pense qu'à chaque fois que tu le sens, et puis là, bon, moi je suis sur le troisième nez, hein, le verre est vide, et ça dégage encore des choses incroyables, quoi. Tu vois.
Des trucs floraux maintenant sur le troisième nez, enfin, il y a des fleurs.
Non, moi ça, c'est, là, quand on parle de, effectivement, du renouveau, des rhums, des whiskies, etc., mais une façon de se faire plaisir en fin de soirée, c'est un vin comme ça. C'est. Ttu te mets à côté de ta cheminée là, tu sens ça.
Il y a les arômes sans l'alcool en fait, donc il y a une accessibilité, enfin par rapport à, ouais, sans faire de hiérarchie. Hein.
Ouais, non, mais
c'est pas du tout ça. On peut apprécier un rhum. J'aime bien le rhum aussi. J'aime bien le whisky.
Moi aussi.
Mais on a un accès beaucoup plus immédiat à l'ensemble des arômes parce qu'on n'a pas cette barrière de l'alcool qui fait qu'on attend l'arôme.
C'est un vrai digestif.
3-4 heures.
Exactement. Mais en plus c'est ça. C'est-à-dire c'est un vrai digestif, moins lourd et moins violent que effectivement les. Parce qu'il y a plein de gens à qui
les spiritueux.
Va pas
bien
plaire,
sûr,
un spiritueux ça va pas plaire, et en fait il faut faire l'expérience, mais maintenant j'ai pris l'habitude d'en avoir un peu, d'en sortir, et en fait ça n'est pas toujours, quoi. C'est-à-dire que les gens disent ah non mais moi j'aime pas les vins sucrés, vas-y goûte ça quand même en fin de repas, et là les gens sont scotchés parce que c'est voilà, c'est éblouissant, et juste un verre mais c'est éblouissant en termes d'arôme, quoi.
Et ça reste super abordable par rapport au travail que ça représente. C'est une trentaine d'euros en cave, je pense.
Ça se garde, parce que c'est élevé en milieu, on est en oxydatif.
Oui, on est en oxydatif, donc ça se garde des années. Tu peux continuer à la boire.
Tu peux l'ouvrir et la boire
plusieurs mois, sur plusieurs mois. Oui, tout à fait.
Bon, ben voilà, on a fait enfin cette émission Roussillon. C'était une belle rencontre avec Olivier Piton. Vous avez des choses à ajouter, messieurs, sur cette région?
Oh oui, bon, il y aurait plein de trucs à dire, mais on va pas développer.
C'est plus l'heure de développer, en effet.
On voudrait avoir des tas de vignerons pour en parler, parce que chacun apporte sa pierre.
Alors, on a fait qu'une partie, on a fait la partie de Glim, mais il y a plein d'endroits, il y a Totavel.
Non, on a fait un village.
Oui, mais il y a Totavel, il y a Maury. On a fait le village, l'arrondissement, la banlieue. Lieu du village de Calz, qui est gigantesque. Mais voilà, on y reviendra par une autre appellation, par un autre biais.
On y reviendra avec grand plaisir. J'en profite pour saluer moi les petits bouts de ma famille qui se trouvent dans le coin à Perpignan, à Saint-Laurent-la-Salanque, etc. Je les embrasse. Font un message personnel comme ça, voilà. C'est la première fois, mais écoutez. On se retrouve bientôt, les amis, pour aller dans une autre région, rencontrer d'autres gens autour du vin. Il y a plein de choses qui se préparent et des belles choses réjouissantes et marrantes et nouvelles pour la Terre.
Bon, il faut nous écouter, quoi. Il faut écouter la suite.
Voilà, écoutez la suite, suivez-nous là où vous pouvez nous suivre, sur les réseaux sociaux et puis surtout sur votre application de podcast préférée. Buvez des beaux vins et des bons vins. Buvez des vins roux du Roussillon, par exemple.
Venez au Wine Therapy les découvrir.
Mais pourquoi pas. Voilà. Par exemple, ce Laïs 2018 en blanc d'Olivier Piton. Par exemple, ce petit taureau en rouge, très gourmand et très croquant, de Jean-Philippe Padier. Et finissez vos repas avec un Rivesaltes hors d'âge ambré du domaine Vaquet. J'ai cru comprendre qu'on disait Vaquet, finalement.
Oui, oui, oui.
Solera depuis 30 ans, et maintenant vous savez ce que ça veut dire, Solera depuis 30 ans, c'est un vin doux naturel, appellation Rivesaltes, et c'est une petite merveille. Allez, on vous embrasse, on se retrouve dans une paire de semaines pour un nouvel épisode de La Terre à Boire.
Bye bye,
à bientôt.
Bye bye, salut, ciao.